Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le destin vous a fait passer du monde des trois étoiles à un autre beaucoup plus sombre où vous avez vu parfois 36 chandelles. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Les écrits restent, mais les paroles ne s'envolent pas toujours. La preuve, bonjour Dominique Loiseau.
Bonjour Jacques.
La revanche d'une femme, c'est un livre paru chez Michel Lafon où vous racontez votre parcours. Et bien votre parcours, ça tombe bien, on va l'évoquer dans ces clés d'une vie, comme d'habitude, à partir de dates clés, si vous en êtes d'accord, bien sûr.
Oui, bien sûr.
La première date que j'ai trouvée, oh, ça vous dira quelque chose, c'est le 26 septembre 1980. C'est la sortie de votre premier livre, qui s'appelle « Hygiène et restauration ».
Oui, exactement. C'était un livre que j'ai fait pour la profession, parce que venait de sortir une législation fleuve pour la profession de la restauration. Et il y a eu un tollé dans la profession. Bon, moi, j'enseignais les règles d'hygiène. Comme j'enseignais les règles d'hygiène, moi, je comprenais cette législation. Et donc, j'ai fait un livre pour expliquer aux professionnels de la restauration pourquoi chaque article qui, concernant les chambres froides, concernant les mains, concernant beaucoup de choses, et aussi pour les écoles hôtelières. J'ai suivi aussi le programme des écoles hôtelières en matière d'hygiène et les nouvelles réglementations.
Oui, parce que ça paraît banal aujourd'hui, mais c'est pas si lointain que ça. On a totalement changé les règles d'hygiène pour la restauration et pour la vie.
Bah, disons qu'il n'y avait rien avant. Il n'y avait aucune réglementation. Et là, on a fait une réglementation fleuve qui a été calquée sur les industries agroalimentaires et donc qui était vraiment assez poussé, même à la limite trop poussé pour un restaurateur lambda. Il fallait un plafond de 2m10, 2m50, et s'il était à 2m, il fallait fermer, vous voyez. Ouais. Donc, en fait, cette législation avait été faite pour les architectes qui construisaient de nouveaux restaurants, pour que dès le départ, la marche en avant, le circuit des produits propres, des produits sales, soit bien agencé, pour ensuite avoir un travail beaucoup plus rationnel.
Oui, et on commence d'ailleurs à l'époque à parler d'intoxication alimentaire, c'est un phénomène nouveau aussi, Dominique Loiseau.
Oui, on en parlait un peu plus, mais ça avait toujours existé, mais on se dit, bon, ben, les gens sont tombés malades parce qu'ils ont mangé un truc pas frais, ou parce que c'est normal, c'est une crème anglaise, on tombe malade, ou un pâté, vous voyez. Mais là, c'est devenu, on faisait des prélèvements microbiologiques sur les aliments, sur les malades, et c'est devenu quelque chose de bien connu et de mieux maîtrisé.
Voilà, parce qu'effectivement, il y avait la société industrielle qui se développait, il fallait agir. Et on parlait aussi de la diététique avec un concept de nourriture équilibrée qui évoluait au fil des années.
Oui, ben, dont on ne parlait pas avant, hein, du moins chez les restaurateurs. Hein, on en parlait dans le domaine médical. Là, il y avait des bouquins, mais il n'y avait aucun livre pour le domaine de la restauration. Donc, je l'ai écrit également, hein, ce livre de diététique, et j'ai passé un CAP de cuisine pour vraiment avoir le jargon et pour leur donner de bons exemples chaque fois pour étayer toutes ces règles d'hygiène des mains, l'hygiène des chambres froides, l'hygiène des produits carnés, des produits laitiers, les fruits et légumes. Enfin, il y a toute une législation qui est tout à fait justifié et qui est maintenant, regardez, on ne parle pratiquement plus d'intoxication alimentaire.
Exactement. Et ce livre, d'ailleurs, Dominique Loiseau, est toujours l'actualité. Il est une référence.
Oui, oui.
Alors, ce phénomène est très loin de vos jeunes années en Alsace, où on ne parlait pas du tout de ce genre de choses. Vous avez grandi dans une famille où même le pain, on le faisait directement.
Ah ben, ma grand-mère, mes grands-parents n'ont jamais acheté de pâtes, jamais acheté de pain. Ils n'achetaient pas grand-chose, quoi. C'était carrément autodépendant, quoi.
Voilà.
Et il y avait la ferme.
Et on se débrouillait et ça se passait très bien comme ça.
Oui.
C'était à Rosenwiller, en alsacien allemand, Rosenwiller, ça veut dire le hameau du le village des roses.
Oui, c'est Rosenwiller-Dettwiller, parce qu'il y a un autre Rosenwiller dans le Haut-Rhin, et ça a été peuplé autrefois par les comtes de Rosen qui sont venus de Suisse.
Voilà. Alors, votre père travaille à l'usine et votre mère est déjà cuisinière, elle est attitrée des baptêmes et communions, Dominique Loiseau.
Oui.
C'est une très bonne cuisinière qu'on appelle à chaque fois.
Oui, 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 parce qu'elle avait été à Neuilly, donc elle était la parisienne, entre guillemets. Donc elle savait cuisiner.
Et quand on est à Neuilly, quand on se retrouve en Alsace, on n'est pas bien vu, théoriquement. C'est un village très fermé.
Oui, non, mais comme elle était justement... On venait la voir quand on avait son enfant malade, on demandait à Marthe Brunet. Dès qu'il y avait le moindre truc, elle avait travaillé chez le général Chevrance-Bertin, à Neuilly. Rue du Commandant Pilot. Donc, elle rencontrait énormément de personnalités. Et puis, elle avait eu était en face de personnes qui avaient des spécialistes auprès d'eux. Donc elle a appris beaucoup dans cette famille.
Alors, vous avez donc grandi là-dedans, au milieu des vignes, et déjà vous avez appris le jardinage, les noms des plantes, c'était déjà un atout, et c'était un atout de petite fille.
Oui, j'avais les mains dans la terre, et notamment nous faisions, nous cultivions tout, hein, les pommes de terre, les betteraves, le houblon et le tabac. J'ai fait le houblon et le tabac en étant petite.
Et c'est un atout fabuleux pour apprendre la vie.
Ah oui,
on peut plus imaginer ça aujourd'hui.
Oui, oui. Et puis, n'oubliez pas, hein, Jacques, tout l'été, on entendait les cigognes. Hein. Il y avait le nid cigogne qui est à deux maisons de chez ma mère. Et c'était toujours, même encore maintenant quand j'y vais, tout est un peu autour des cigognes.
Ça vous fascinait, les cigognes, les oiseaux, pourquoi ?
Toujours. Mais c'est un bel oiseau qui est, quand il est debout, il se met sur une patte, il ne bouge plus, après il trafique un peu son nid, enfin, et ça vole, quand ça vole, c'est tellement beau, ça vole doucement. Enfin, moi je ne peux pas, je vais régulièrement chez ma mère, surtout pour voir les cigognes.
Oui, vol des cigognes qui a changé, parce qu'il fut un temps où les 35 000 cigognes du pays allaient en Afrique. Maintenant, elles s'arrêtent en Espagne, elles ne vont pas plus loin en général.
Oui, oui, mais il y en a de plus, elles reviennent à nouveau. Disons qu'elles ont été un peu protégées et un peu acclimatées.
Et puis, vous avez découvert une boisson qu'on appelle le schnapps.
Ah oui, bah, je l'ai découvert toute petite. Je veux dire, mon grand-père le faisait lui-même, son schnapps. Hein. C'est une eau de vie de quetsch. Et c'est vrai qu'on soignait les maux de dents avec ça. Et puis, c'était fréquent qu'on prenne un peu de pain de mie, de pain de miche, hein, d'une miche de pain, on fait une tranche et on imbibe ça de schnapps. Voilà. Et moi, toute petite, je goûtais ça, puisque c'était pas fort. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer les eaux de vie,
voilà,
de fruits.
Et il faut savoir que le schnapps en Amérique du Nord a évolué. On fait des schnapps de pêche, de caramel, maintenant.
Ah oui, mais ça, c'est... Non, ça voilà. M'intéresse pas. Non,
on est bien d'accord. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous parliez alsacien dans la famille,
oui,
et français à l'école.
Oui, à la maison, mon père était francophone, mais chez mes oncles qui étaient à côté, il y avait des tablés de 12, puisque c'était une grande ferme avec beaucoup d'oncles et de tantes, je parlais le dialecte en permanence.
Et puis ce village est devenu la capitale de la chaussure, parce que je crois que Adidas s'est installé là-bas, ça a changé totalement le village.
À Detwiller, il y avait Sioux, il y avait Adidas, il y a Heshung aussi maintenant. Ah oui, c'était vraiment toute la population se promener en chaussures de sport et en jogging, oui.
Mais comment ces usines étaient arrivées là? En plus, c'était très bien pour la population parce qu'il y avait du travail pour tout le monde.
Absolument. Et c'était vraiment une spécialisation. C'était des Allemands qui avaient choisi l'endroit et tout le monde travaillait dans la chaussure.
Et je crois que le soir, votre famille faisait la couture des plateaux des mocassins.
Oui, en plus, oui. Pour gagner encore un peu d'argent, pour arrondir les fins de mois, et il fallait tirer très fort, et on mettait un petit bout de cuir, d'ailleurs, sous le petit doigt pour aider et protéger le doigt.
C'était pas fait à l'usine, ça ?
Non, ça c'est fait à la main.
Oui.
C'est fait à la main.
Et puis, vous avez fait vos études à Fenétrange, au Collège Notre-Dame de la Divine Providence, et Fenétrange, il faut savoir que la famille de Marcel Dassault est originaire de ce village.
Oui, je le sais, absolument. Mais il ne s'appelait pas Dassault à ce moment-là.
Non, il s'appelait Bloch.
Bloch, voilà.
Alors, qu'est-ce qui vous passionne à l'époque, Dominique Loiseau? C'est la biochimie.
Disons qu'en troisième, il a fallu s'orienter. J'ai une fille dans mon village qui faisait un bac de technologie en biologie, et elle m'en a parlé, et je me suis dit, ça me plairait, et je suis allée à Strasbourg, au lycée technique boulevard de la Victoire, et j'ai fait un bac F7, qui était le bac technique biochimie. Et après j'ai fait le BTS, biochimie, et après j'ai fait la licence et la maîtrise de biochimie.
Et c'est quelque chose aussi qui a beaucoup évolué, la biochimie.
Oui, absolument. Et je me rends même compte, même la virologie que j'avais faite, par exemple la pandémie que nous vivons, moi je n'ai jamais entendu durant mes études qu'une pandémie pouvait être en Europe, au cœur de l'Europe.
Jamais.
Les pandémies, elles étaient aux Philippines, elles étaient loin, mais pas comme ça.
Et alors il y a aussi quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un qu'on connaît bien, qui est l'idole éternelle. Alors cette chanson, elle date justement de l'époque où vous l'avez rencontré. Il prépare un show sur le thème de la pollution Johnny Hallyday, et vous allez lui servir son whisky, Dominique Loiseau.
Oui, bah disons qu'il donnait des spectacles sur la Côte d'Azur, et mon amie Claude Gousset, ma copine, avait un fiancé qui était dans l'orchestre, qui était en première partie de Johnny. Donc nous avions droit d'être dans toutes les coulisses, quoi. C'était quelque chose d'extraordinaire.
Et Johnny était vraiment déchaîné, c'était un showman incroyable.
Oui, c'était un showman et il arrivait déjà un peu fatigué, enfin gay, dirais-je. Oui. Et puis après, entre chaque chanson, c'est moi qui lui portais son verre de whisky.
Qu'il avalait pour chanter.
Oui, et j'étais très fière.
Vous avez vécu aussi une soirée surréaliste avec Johnny et son copain de l'époque, qui était Michel Sardou.
Oui, aussi, oui, ça avait duré toute la nuit, là.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, ils ont chanté, bu, tous les gens des orchestres respectifs étaient là, ça chantait, enfin, c'était... C'est pour moi qui suis très curieuse, c'était la découverte d'un monde que je ne connaissais pas.
Oui, je crois que ça se passait chez Gu, qui était à l'époque un restaurant où toutes les stars passaient, quoi qu'il arrive, quand on est en tournée, et ça se terminait effectivement à l'aube, et on chantait, on mangeait, et on buvait beaucoup.
Oui, mais c'est tout ça, je vous dis, ce sont des expériences, moi, qui m'intéressaient, de connaître tous ces mondes qui n'étaient pas le mien. En plus, moi, partie d'un milieu très ouvrier, tout ça m'éblouissait un peu, j'avais envie de connaître, et ça me plaisait.
Voilà. Et vous entrez dans l'enseignement à ce moment-là, vous êtes professeur de mathématiques et de sciences appliquées à l'alimentation.
Oui, pas de mathématiques, de sciences appliquées à l'alimentation, de microbiologie.
Oui, et ça c'est un enseignement nouveau à l'époque aussi.
Oui, d'ailleurs je dois vous avouer que j'ai fait les programmes pour les écoles hôtelières, parce que le programme de sciences appliquées pour les écoles hôtelières, il fallait étudier la mitochondrie, enfin des choses compliquées qui ne servaient rien à des élèves d'école hôtelière. Et comme la législation d'hygiène venait de sortir, j'ai rajouté toutes les règles d'hygiène, plus tout un programme de microbiologie, puisque les intoxications, c'est les microbes. Et donc, c'était pratiquement le programme que moi j'avais étudié en biochimie microbio. C'est moi qui l'avais créé, ce programme, et les élèves l'utilisent toujours, et c'est devenu la référence dans l'éducation nationale en matière en hôtellerie.
Eh bien écoutez, vous avez complètement changé ensuite, on en parle avec une autre date, le 19 mai 1989. A tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Loiseau.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Dominique Loiseau. La revanche d'une femme chez Michel Lafon, on va en parler tout à l'heure. Mais elle est liée à une date quand même, le 19 mai 1989. Ça vous dit quelque chose, non ?
C'est mon mariage.
Voilà, un mariage avec celui dont on va entendre la voix.
Quand j'étais gamin, c'était vraiment, j'étais vraiment un gamin insupportable, quoi. Je tenais pas en place, il fallait me surveiller comme le lait sur le feu.
Voilà. Mes parents avaient donc Bernard Loiseau, un mariage civil, mais vraiment intime, avec un déjeuner chez l'ami intime qui était Guy Savoy.
Oui, nous avons fait ce mariage dans l'intimité et on a fait le mariage religieux après avec la famille.
Voilà. Et Guy Savoy a été en apprentissage avec Bernard Loiseau chez Trois Gros. Ils sont restés les meilleurs amis du monde. Et d'ailleurs, c'est grâce à Bernard Loiseau que Guy Savoy a osé diriger un premier restaurant.
Qui
était la barrière de Clichy. Alors, votre première rencontre avec Bernard Loiseau, vous êtes à l'époque journaliste, parce que vous avez été journaliste dans un journal qui s'appelle L'Hôtellerie.
Oui, qui est le journal de la profession. Et donc, j'étais dans ce journal, mais je m'occupais de tout ce qui était alimentaire. Alimentaire, mais aussi donc l'hygiène et toutes ces règles-là.
Voilà, et vous étiez rentré au départ parce que vous avez fait un livre, et puis finalement vous avez passé 7 ans dans...
Oui, parce que quand j'ai sorti le livre Hygiène et Restauration, le journal m'a demandé plein de piges, parce que le texte de loi, l'arrêté ministériel étant sorti, le journal professionnel avait besoin d'en parler. Surtout que la profession était un peu paniquée par toutes ces règles d'hygiène. Et donc, mon rôle, c'était vraiment de tout bien expliquer à leur niveau, les gestes, mais avec des mots très simples.
Oui, parce qu'on connaît mal ces journaux professionnels, mais c'est vrai qu'il y a plein de journaux comme ça qui sont réservés à une élite et qui marchent très bien.
Oui, c'est un journal professionnel. Donc, on y traite les problèmes de réglementation, les problèmes de gestion, les problèmes d'hygiène. Enfin, un métier, quelqu'un, parce que c'est quand même un métier dans lequel certains se lancent sans avoir eu fait l'école hôtelière, par exemple. Hein. Donc, c'est important de tout bien réglementer, et bien réglementer aussi, hein, parce que notre santé est en jeu en tant que client.
On est d'accord. Alors, donc, Dominique Loiseau, un jour, ce journal vous envoie au trophée, à Vichy, au trophée des sources.
Oui.
Et là, il y a un membre du jury qui vous regarde.
Oui, surtout que je ne voulais absolument pas y aller. J'ai tout fait pour ne pas y aller, et mon rédacteur en chef m'a obligé d'y aller. Oui. Donc, j'y suis allée à contre-cœur. Et durant le dîner de gala, donc il y a eu le concours culinaire avec des jeunes cuisiniers, et ensuite il y a eu le dîner de gala. Et durant ce dîner de gala, à trois tables de moi, il y avait un monsieur qui m'a maté toute la soirée. Alors j'étais très mal à l'aise parce que j'ai cru que c'était Alain Chapelle.
Oui,
parce que il lui ressemblait tellement. Et puis, le lendemain, j'ai voulu lui dire que s'il se trompait de personne. Eh bien, il était déjà rentré à Saulieu à 6h du matin.
Et c'était Bernard Loiseau.
Et puis, on me l'a dit.
Et vous l'avez revu.
15 jours après.
Et il avait à l'époque et un gros problème de divorce. Sa femme était partie avec un maître d'hôtel. Mm. Et ça l'avait traumatisé parce qu'il se sentait trahi.
Oui, il n'était pas très bien. Il était malheureux. Mais il s'est quand même intéressé à moi, voyez-vous.
Oui.
Donc, j'ai essayé de le soutenir comme j'ai pu. Et puis, j'ai progressivement un peu intégré la maison, les week-ends notamment, pour l'aider dans sa déco, l'aider dans tout ce qui était rédigé pour l'hôtel-restaurant. Je relisais, je corrigeais. Enfin bon, j'ai commencé à me rendre un peu utile.
Voilà. Ce qui était étonnant avec Bernard Loiseau, c'est que, il travaillait le soir à Saulieu. Il venait à Paris vous rejoindre.
Oui.
Et il repartait le lendemain matin à l'aube.
Oui. Tellement il pleurait. Il était malheureux. Il ne voulait plus dormir chez lui. Et c'était très touchant. Hein. C'était de voir un homme pleurer. Moi, je n'avais jamais vu ça.
Et surtout en secret, parce qu'il n'en parlait à personne devant les clients, il était souriant.
Mais bien sûr, il était euphorique.
Alors, il est né à Chamalières, Bernard Loiseau, comme Daniel Gilbert, comme Michel Charras, et Pierre Schandorfer, qui est le metteur en scène, qui a eu un Oscar du documentaire pour la section Anderson, ils sont aussi de Chamalières. Mmh. Et puis, je crois que ses parents tenaient une charcuterie, sa mère tenait une charcuterie, et ça lui a permis d'apprendre les bases de la cuisine.
Oui, de la cuisine, du bien manger, et puis en plus, elle cuisinait très bien sa maman à la maison. Donc, il a toujours été habitué aux bons produits et elle faisait tout elle-même. Hein. À ce moment-là, on n'achetait pas les produits faits.
De même, le marché, le samedi et le dimanche avec son père, c'était une tradition, là aussi.
Oui, et puis il faisait même de la cueillette. Ils allaient se promener, cueillir toutes sortes de choses dans les monts d'Auvergne.
C'est ce qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui,
Daniel Loiseau. Ah, il me dit qu'il devait crapahuter. Hein.
Oui.
Parfois, il râlait un peu, Bernard.
Oui, mais en même temps, c'est un privilège qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Il y en a de moins en moins des marchés de ce genre.
Oui, bien sûr.
Et il apprenait aussi à pêcher les écrevisses.
Ah oui, ça, il savait très bien pêcher les écrevisses. Il l'a appris à notre fils Bastien. Et puis maintenant, il n'y en a pratiquement plus.
Alors, en observant la cuisine de sa mère, il a inventé aussi quelque chose. C'est la cuisine sans crème, Bernard Loiseau. Car ça vient de sa mère, l'idée, au départ.
Oui, parce que sa mère, quand elle faisait revenir une viande, ensuite, quand c'était un peu caramélisé au fond de la casserole, elle mettait un peu d'eau. Et donc, ça donnait un jus qui avait ce goût de viande. Et Bernard a refait la même chose, parce qu'il trouvait ça... Il ne voulait pas de crème dans sa cuisine. Toutes les recettes étaient crémées. Et au dernier moment, j'ai passé le CAP de cuisine, il faut encore rajouter du beurre fondu pour faire briller le plat, voyez-vous. D'ailleurs, moi, pour mes règles de nutrition, c'était un peu... C'était dur d'apprendre certaines recettes.
Et même
recettes.
Pour la santé, oui, voilà. Il y a trop de crème, on sait que...
Et puis de beurre aussi, toujours glacé au beurre. Donc il a remis tout cela en question, et quand il a enlevé tout ce gras et toute cette crème, il a redécouvert le goût du produit, parce que tout était adouci par la crème. Donc là, il a retrouvé une cuisine épurée, et ça l'a tellement convaincu qu'il s'est vraiment spécialisé dans ce domaine-là.
Et il a ouvert une voie dans laquelle tout le monde s'est engouffré aujourd'hui.
Oui. Au début, on se moquait de lui, on disait de la cuisine sans crème, c'est pas de la cuisine française, sauf que maintenant tout le monde fait pareil.
Alors, il se trouve aussi qu'il a une formule fabuleuse. Il dit, j'ai eu deux bacs, le bac d'eau froide et le bac d'eau chaude, car les études, ça s'est arrêté très vite pour Bernard Loiseau.
Il s'est arrêté en troisième. Mais c'est aussi une phrase qu'utilise Paul Bocuse.
Oui. Mais il s'est arrêté en troisième parce qu'il est allé en apprentissage.
Oui.
Ça ne l'intéressait pas.
Il ne supportait pas d'être assis à une table, de rester assis. Ce n'était pas possible.
Et donc, Bernard Loiseau va chez Trois Gros. Trois Gros à Roanne, qui s'appelait au départ l'hôtel-restaurant des Platanes et qui est devenu en 1935 l'hôtel moderne avant de devenir celui de la famille.
Voilà.
Et là, il a vu Trois Gros recevoir sa troisième étoile et ça l'a marqué.
Oui, il y a deux choses qui l'ont marqué. L'arrivée de cette troisième étoile et ce que ça signifiait, le nombre de bouteilles de champagne qui sautaient, etc. Et aussi les bons produits. Oh, il était subjugué par la qualité des produits qui arrivaient en cuisine. Et pour moi, il m'a dit que ça a été une révélation.
Parce que c'était vraiment quelque chose de novateur.
Oui, et puis d'une qualité extraordinaire.
Alors, il se retrouve ensuite à Paris, grâce à Claude Verger, à la barrière de Clichy, et du jour au lendemain, Bernard Loiseau, que personne ne connaissait, Dominique Loiseau, va devenir le cuisinier médiatique.
Oui, il était à Paris, et Claude Verger, qui n'était pas un cuisinier, avait senti que Bernard avait quelque chose, et il connaissait les médias, surtout Claude Verger. Donc il a fait venir tous les médias. Et c'est comme ça que Bernard a été connu dès l'âge de 23 ans.
Voilà, et il s'est senti tout de suite à l'aise avec les médias, ce qui n'est pas courant chez les cuisiniers.
Oui, ben comme il était jeune, peut-être que bon... et puis, il n'y en avait pas tant que ça à ce moment-là. Hein,
non.
C'était quand même il y a un certain nombre d'années. Donc il a été, vraiment, il les a approchés, et puis je crois qu'il a aussi compris qu'il en avait besoin, vous savez.
Oui.
Et d'autant plus que quand il est venu à Saulieu, il fallait qu'il se fasse connaître, parce que Saulieu était une ville un peu oubliée, et pour que les clients qu'il connaissait à Paris, qui allaient sur la Côte d'Azur ou à la neige, quand il passait dans le coin, il voulait absolument qu'il s'arrête. Mais pour qu'il sache qu'il est là, il était obligé de passer par les médias. Il ne pouvait pas payer des pages de pub.
Oui, surtout qu'à l'époque, Claude Verger lui a confié donc, le restaurant de Saulieu, en lui disant « un jour tu l'achèteras ». Et finalement, plus personne ne passait par là, parce que il fut un temps où on traversait le Morvan en voiture, là il y avait l'autoroute.
Oui, l'autoroute est en temps arrivé, tout le monde voulait l'essayer. Hein. Pourtant c'est parallèle, hein. On peut prendre la nationale, c'est pas beaucoup plus long. Mais il y avait cette nouveauté, et là, Bernard me disait qu'il était sur le pas de la porte, en haut de l'escalier d'entrée, et qu'il pleurait, quoi. Parce qu'il n'y avait plus une voiture sur la nationale.
Donc, il fallait faire revenir ce monde-là. Et en plus, il a vécu dans un hôtel de luxe, dans une toute petite chambre, un petit appartement.
Je l'ai connu, hein. J'ai vécu là aussi au début, au-dessus de la Nationale, à l'angle. Il y avait juste une armoire en plastique avec une fermeture éclair, une petite salle de bain sans fenêtre, et puis juste une espèce de salle à manger avec une table, c'est tout. Même pas de cuisine, rien.
Ça n'intéressait pas.
Ben non, mais c'était comme ça, il n'y avait que ça. Et lui a préféré investir pour les clients, toujours,
voilà.
Toujours.
Et ça a payé, on va en parler avec une autre date, le 26 janvier 1995. A tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Loiseau.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Dominique Loiseau. Ce livre, La revanche d'une femme chez Michel Lafon, on en parle tout à l'heure. Mais il y a une revanche aussi, le 26 janvier 1995, une revanche pour Bernard Loiseau. Vous vous souvenez de cette date, Dominique Loiseau?
Oui, c'est le jour de la remise de sa Légion d'honneur. Ça, c'était quelque chose. À l'Élysée, en plus.
Par François Mitterrand.
Par François Mitterrand.
Et là, c'était vraiment le jour de bonheur, revanche presque de la consécration d'une vie de travail.
Oui, voilà. Pour Bernard, qui était toujours un peu complexé par rapport à tous ses collègues, parce que beaucoup de chefs qui étaient ses collègues avaient la maison familiale. Or, Bernard n'avait pas ça, donc il a dû acheter les murs, le fonds de commerce, enfin il a dû s'endetter, il a dû se priver. Les premières années, on ne peut pas s'imaginer comme il s'est privé, a fait de sacrifices.
Mais oui, mais parce qu'il ne travaillait pratiquement 20 heures sur 24.
Mais oui, et puis il a fallu s'installer.
Alors, Mitterrand, il venait quelquefois à Saulieu, c'est le Morvan, une région qu'il connaissait bien. Il venait discrètement au restaurant, Dominique Loiseau.
Oui, il venait, comme il venait voir ses amis, ses anciens amis dans le Morvan, il venait avec un certain nombre de ministres, il venait chez nous, bien sûr.
Et un jour, d'ailleurs, Bernard Loiseau lui a fait goûter quelque chose qui est lié à une émission de télévision.
Voici le bébé de chaud pour les RI, les
socialos. Voilà. Car François Mitterrand, c'était Kermit la grenouille.
Oui.
Et Bernard fait une gaffe.
Oui, Bernard prend la commande, il dit « Président, vous commencerez bien par des grenouilles ». Et le président lui répond « Oh !» Il le regarde, l'oiseau. « Vous ne manquez pas d'humour », qu'il lui dit.
Et oui.
Et Bernard, sur le coup, n'a pas tout de suite réalisé, puis après, il a tilté quand même.
Voilà, et ça s'est arrangé.
Oui, bien sûr.
Le bébé de chaud, il ne faut pas l'oublier, c'est Stéphane Collaro et Jean Roucas, mais c'est aussi Jean Amadou qui, tous les jours à 13h, s'enfermait dans un bureau avec les journaux et écrivait en une heure toutes les séquences du bébé de chaud.
Oui.
C'était un monument de la télévision. Alors, il y a eu donc les grands travaux de François Mitterrand, mais il y a eu aussi les grands travaux de Bernard Loiseau, parce que ça a été des années de travail d'Amine Loiseau pour faire de ce lieu qui était mort. Une résurrection.
Oui, disons que c'est un lieu qui datait des années 50 et même des années 30. Et donc, à ce moment-là, on voulait voir qui passait dans la rue, du temps des calèches, par exemple. Hein. Il fallait voir qui passait dans la rue. Donc, les couloirs étaient au milieu du bâtiment et les chambres des deux côtés. Notamment, il y avait des chambres sur rue qui étaient très prisées. Mais après, c'est devenu l'inverse. Les clients ne voulaient plus être côté rue. Et donc, quand nous avons... Donc, Bernard n'a pas fait tout de suite de travaux parce qu'il savait qu'il faudrait tout casser pour mettre les couloirs côté rue et les chambres côté jardin. Et donc, nous avons fait, effectivement, en 95, de très grands travaux.
Et il fallait justement que les gens reviennent, se détournent de l'autoroute pour venir à ce lieu.
Oui. Ça 20 minutes.
Oui, mais enfin, il fallait quand même leur dire.
Oui, oui, non, mais Bernard Loiseau, quand on le voyait à la télévision avec ses yeux qui brillaient, avec son grand sourire, c'est un homme charismatique, eh bien, les gens s'arrêtaient, quoi.
Oui, et effectivement, et d'ailleurs, il prenait la voiture le matin pour aller faire une émission de radio, il faut 2h30 pour faire le voyage, il le faisait en 1h30.
Oui, il le faisait souvent le soir aussi, oui.
Et il n'y avait jamais de problème, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les points du permis.
Oui, quand je pense combien... Il roulait tellement vite, mais il n'y avait pas de limitation.
Donc on pouvait sans problème aller faire une émission de radio et revenir le lendemain matin à la cuisine.
Absolument, mais c'est ce qu'il faisait.
Mais pour tenir le rythme, c'est fou.
Bon, il ne mentait pas tous les soirs non plus, hein, mais il n'arrêtait pas. Je veux dire, il ne se limitait pas, il ne se protégeait pas. Et ça l'a quand même pas mal fatigué, tout ça.
J'imagine. Alors, Bernard Loiseau, il y a une progression. Il reçoit le prix du meilleur petit déjeuner. D'abord,
les Relais Château.
Voilà, la meilleure carte des vins. Mmh. Et puis la troisième étoile. Ça a été un jour extraordinaire,
oui.
Dominique Loiseau.
Oui, ça a été pour lui le summum, quoi, le couronnement de sa carrière.
Et il l'a appris un matin au téléphone. Comment ça s'est passé?
Oui, absolument. C'est le directeur du guide Michelin qui l'a appelé pour lui dire. Mais il lui a dit qu'il ne fallait surtout pas l'ébruiter. Parce qu'il a su ça un vendredi. Et le guide Michelin sortait le lundi. Donc il ne fallait pas que la presse l'annonce avant.
Et là, pour tenir sa langue, c'était pas facile.
Oui, mais je crois qu'il y a eu aussi des fuites du côté de Michelin.
Voilà, donc ça s'est su très très vite.
Ça s'est su durant le week-end, c'était quand même le journal du dimanche, l'a annoncé.
Alors, le guide Michelin, au départ, en 1900, c'était un guide qui donnait uniquement tous les renseignements utiles à un chauffeur voyageant en France, pour son automobile, pour se loger, et ça a évolué. Et puisque c'est en 1926 qu'il est devenu le guide des étoiles, pas avant, et avant, c'était offert gracieusement avec l'achat d'un pneumatique.
Oui, parce que les voitures tombaient souvent en panne, oui. Donc le but de ce guide, c'était de donner les adresses des garages les plus proches.
Alors, cette troisième étoile, vous allez la fêter de façon étonnante, puisque vous allez tous en car, toute la maison, chez Bocuse.
On avait deux bus, hein. On est allé chez Paul. Paul nous a invités. Hein. C'est après, à la fin, il a invité toute l'équipe. Et c'était un repas assez pittoresque, dirais-je.
C'est-à-dire ?
Eh bien, Paul a fait un discours, mais vraiment formidable. Il avait un torchon en main. Il faisait semblant de le lire, voyez-vous, comme ça, là, sans arrêt. Et tout le speech de ce discours était vraiment... Tout le monde riait. Après, Bernard a dû prendre la parole aussi. Et puis, on a mangé les grandes spécialités de Paul. Hein. C'était un moment vraiment très émouvant.
Un moment aussi qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, parce que ce genre de grande fête où on rit, ça n'existe plus beaucoup. Et il y avait en plus des éléphants, les éléphants du
Serpent
d'Air.
Ah oui, alors avant d'y aller, quelques jours avant, Paul dit « Ah, de toute façon, tu sais Bernard, hein, tu seras bien accueilli. Hein. Tu sais, j'ai fait venir deux pointures, hein, des personnalités fortes, hein, etc. Des grandes personnalités. » Donc avec Bernard, on s'est dit, ça doit être Raymond Barre, ça doit être... Vous voyez, on a cherché des personnes humaines. Et puis finalement, en arrivant, il y avait deux grands éléphants du cirque Pinder qui étaient là, parce que Paul était en train de tourner une pub avec eux. Et donc, ben, Paul a dû monter sur un éléphant, Bernard sur l'autre. Bernard était vert, il avait peur et tout. Mais il a fallu faire la photo avec les deux chefs sur leurs éléphants.
On a oublié que le cirque Pinder, à l'époque, c'était aussi le cirque où l'on venait chanter. Luis Mariano, Charles Trenet et beaucoup d'autres ont fait des tournées avec le cirque Pinder pendant l'été. Et ça cartonnait. C'est-à-dire, il y avait les éléphants en première partie,
oui,
et les chanteurs en seconde partie.
Et les chanteurs après.
Ce qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Alors, dans la défense de Bernard Loiseau, il y a aussi une chose très importante. Ce sont les artisans du Morvan. Car non seulement il a redonné vie à Saulieu, mais il a sauvé aussi des artisans qui étaient qui vivaient dans des conditions très délicates et très difficiles.
Oui, bah disons que quand on fait un très très bon produit, ça demande beaucoup de travail et c'est un produit qui devient cher. Donc, on ne peut pas le vendre dans les circuits normaux. Hein. C'est des produits trop précieux. Et pour certains artisans, de travailler pour Bernard, c'était vraiment faire un produit d'exception. Je sais que quand on avait un éleveur de pigeons, il fallait que le pigeon fasse, c'était le race king, qu'il fasse un kilo pour que ça soit une belle portion pour deux personnes. Vous voyez, on a quand même des critères très précis.
Oui, mais en même temps, à l'époque, il a défendu les artisans, je m'en souviens très bien.
Ah oui, bien sûr.
Et en les défendant, il leur a permis d'entrer dans un circuit. Aujourd'hui, on voit dans des grandes boutiques des produits artisanaux et Bernard Loiseau en est responsable
bien
en partie.
Bien sûr, parce que quand nous avions des produits d'exception, eh bien, les autres chefs qui venaient faire des repas chez nous, ben, ils voulaient les mêmes produits. Donc, c'est lui qui a vraiment
lancé l'opération.
Je prends le cas de notre confiture faite par un monsieur dans le Morvan. Ben, quand Joël Robuchon est venu, ou d'autres, ils ont voulu avoir la même confiture. Donc, on l'a retrouvée dans des grands hôtels, les palaces parisiens, etc. Donc, il a développé cette famille qui était au fin fond du Morvan. Le monsieur était un peu aveugle, d'ailleurs. Et ça les a vraiment relancés.
À propos de famille, il y a eu un problème, c'est les enfants. Il en voulait bien, mais à condition qu'ils ne soient pas dérangés pendant le service.
Voilà, c'était le... Oui, quand on a dépassé la trentaine, je me suis dit, ma fille, il ne faut quand même pas oublier cette étape-là. Et donc, il m'a dit, je veux bien, mais il ne faudra jamais me déranger en plein service. J'ai dit, je ne te dérangerai pas en plein service. Sauf que, un jour, j'étais à Chicago pour vendre notre maison auprès des agences de voyage, hein, pour nous faire connaître. Et il était 14 heures là-bas. Et Bernard m'appelle, sauf qu'ici c'était 11h du soir, 23h. Et que se passait-il? Eh bien, ma Bérangère venait de faire une appendicite. Et donc Bernard a dû l'emmener à l'hôpital à Dijon, qui est à 80 km. Il n'a rien dit, il l'a fait au mieux, il a été un père parfait.
Mais en même temps, trois enfants d'ailleurs qui portent les mêmes initiales, BL, oui. Bérangère,
Bastien... Et blanche.
Et pourquoi les mêmes initiales, Dominique?
Ben parce que nous avons un très beau logo LB hein, au restaurant, et que c'est un beau logo, et je trouve que je l'avais déjà mis sur un certain nombre de vêtements ou autres, donc je trouvais que c'est bien que les enfants aient le même logo, quoi. On ne va pas encore refaire un autre logo.
Bien sûr. Alors, il y a eu les vacances aussi. Les vacances, bon, ben, c'est un mot qu'il ne connaissait pas vraiment, Bernard Loiseau.
Non, je n'aimais pas ça. Non, non.
Et comment vous avez fait, vous, pour partir en vacances, Dominique Loiseau?
Eh bien, j'essayais de trouver des excuses.
Ouais.
Je sais que nous sommes allés aux Seychelles parce que Bernard, je me suis débrouillée pour qu'il fasse le repas du président, quand c'était le mariage du fils du président. Donc, ils avaient demandé à ce que ce soit Bernard qui fasse le repas.
Donc là, il a accepté de partir.
Oui, sauf que la semaine, cette semaine-là, il a su après que le président Mitterrand allait venir chez nous.
Oui.
Et là, il était paniqué. Mais quand il a dit que nous allions faire le repas pour le président des Seychelles, le président Mitterrand dit « Mais allez voir mon ami Albert René, il n'y a pas de souci, allez-y. » Et puis finalement, ça s'est bien passé sans nous.
Voilà. Et puis il y a cette date tragique du 24 février 2003, où il nous a quittés brutalement. C'est vous qui avez découvert le corps. Et on se pose encore aujourd'hui la question, pourquoi? Mais vous avez, et vous le dites dans ce livre, vous avez senti des signes avant-coureurs, Dominique Loiseau.
Oui, je sentais qu'il était fatigué, comme tous les hivers. Hein. Tous les hivers, nous ne fermions jamais, et il n'y avait pas beaucoup de clients. Et ça le démoralisait. À la limite, c'était une fatigue psychique, plus que physique. Et là, en février, ben... Un jour, il a plongé complètement.
Il a plongé complètement, sans vous prévenir, sans rien. Mmh. Il vous avait dit qu'il songeait à se suicider, vous l'avez pas
oui,
cru.
Oui, mais bon, Bernard, l'hiver, bon, Bernard disait beaucoup de choses, vous savez, on ne pouvait pas toujours prendre tout ça à la lettre, parce que c'était quelqu'un qui était, maintenant je sais, qui était bipolaire.
On ne savait pas à l'époque.
Ben non, on ne connaissait pas. Moi, je pensais qu'il avait des sautes d'humeur, vous voyez, qu'il exagérait un peu toujours les choses.
Et moi, je me souviens de l'avoir vu quelques semaines avant à Paris, où dans la rue, on marchait ensemble, il disait bonjour à tout le monde. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis bonjour à tout le monde? Parce que si jamais ce sont des clients, et si je ne leur dis pas bonjour, ils ne viendront plus chez moi.
Eh bien, il a raison.
Oui, mais mais des inconnus dans la rue, il leur disait bonjour.
Ben oui, mais vous savez, dans ce métier, on salue facilement les gens. Il faut être très, très accueillant, c'est dans nos gènes, quoi.
Alors, il y a aussi une légende qui a couru à l'époque. On a dit qu'il nous avait quittés parce qu'il allait perdre sa troisième étoile. C'est totalement faux, Dominique Loiseau.
Bien sûr. On n'a jamais quand il est décédé, la troisième étoile était restée. Hein. Voilà. Il y avait tout. On avait le guide et ses sorciers. Mais un critique a trouvé intéressant d'écrire que peut-être Bernard Loiseau devrait la perdre. Après, il a écrit « Il ne l'a pas perdue, mais il aurait dû la perdre ». Vous voyez, c'est la gesticulation.
Ça, dans ces cas-là, bon, il faut garder une force morale pour ne pas avoir envie de dire ce qu'on pense à ce monsieur.
Oui, d'une part, mais d'autre part, moi, je sais que quand on est connu comme Bernard, de temps en temps, bon, il a eu toujours plein de bons articles, de temps en temps, il y en a un qui est moins bon et qui vous attaque, ça fait partie du jeu. Sauf que Bernard n'a pas supporté ça, voilà. Du tout. Et surtout parce qu'il se donnait tout le mal qu'il fallait. Ça, il me l'a dit, hein, je me donne tout le mal que je peux, je suis là-bas tous les jours et on m'attaque maintenant. Oui. Et ça l'a déstabilisé.
Oui. Et vous en parlez dans ce livre dont on va parler, nous, dans quelques instants, à travers une autre date, le 3 juin 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Loiseau.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Dominique Loiseau. Le 3 juin 2021 est sorti La revanche d'une femme, un document chez Michel Lafon, le témoignage bouleversant de la femme de Bernard Loiseau. Et c'est vrai que ce livre, pour vous, c'est un besoin de l'avoir fait, Dominique Loiseau.
Oui, disons que c'était... nous avions fait Il y avait une émission qui était faite sur nous, qui durait 20 minutes, qui était une très très belle émission, qui est passée sur France 2, et qui a beaucoup plu aux Français, j'ai eu des retours des lettres et autres. Et la responsable Katia Chapoutier, qui a fait ce reportage, s'est dit, il faut faire un bouquin de cela. Et donc elle a fait le livre.
Alors, La revanche d'une femme, c'est effectivement votre travail, 18 ans de travail. Lorsque Bernard est parti, et moi je viens très bien, et les gens disaient, mais c'est fini, Bernard Loiseau, on n'en parlera plus. Mmh. Et vous êtes arrivé. Mmh. Et personne ne pouvait imaginer que ça marcherait. Ça a marché, et vous l'avez voulu, Dominique Loiseau.
Oui, je l'ai voulu. D'abord, il y avait une très belle maison qu'on a mis 27 ans à construire. Donc, ça vaut le coup quand même de sauver une maison. Je parle, quand je dis la maison, c'est le bâtiment, ouais. C'est un bel endroit. C'est un superbe relais et château. J'avais 60 personnes qui travaillaient là. Il fallait renvoyer chez elles ? Ben non, on ne peut pas. On ne peut pas prendre cela comme responsabilité. Il y avait les clients de Bernard qui tenaient à lui. Qu'est-ce qu'ils auraient pensé si d'un seul coup, Bernard Loiseau, c'est du vent. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas possible. Donc je ne pouvais pas imaginer qu'on enlève le nom de Bernard Loiseau sur cette façade. Moi, je n'aurais pas pu survivre à ça. Et donc, je me suis dit, on va essayer. Comme ça, je n'aurai pas de regrets. Moi, je suis comme ça. Je suis toujours quelqu'un qui a besoin de sauver une situation, de sauver des choses. Enfin bon, je suis comme ça. Hein.
Et donc, vous êtes mis au travail. D'abord, une femme dirigeant ce genre d'établissement, ce n'était pas courant à l'époque.
Non, mais j'étais déjà avec lui durant tant d'années à ses côtés. Je connaissais les équipes me connaissaient. J'étais quand même l'épouse.
Oui.
J'étais crédible.
Oui, mais en même temps, vous avez travaillé dans l'ombre et là, vous passiez en pleine lumière.
Oui, mais que ce soit Bernard ou moi, on faisait les mêmes choses.
Oui, sauf que vous, les médias, ne vous connaissez pas. Oui. Il y a eu une photo dans Match avec vos enfants qui a fait beaucoup parler. C'est-à-dire que vous avez eu une de Match avec vos enfants en disant « on continue ».
Oui, oui. Vous savez, une maison, elle doit tourner. Donc, si vous vous arrêtez 2-3 semaines, comment vous payez vos employés ? Moi, je savais, dans la nuit qui a suivi le drame, j'ai beaucoup pensé, j'ai réfléchi, etc. J'étais heureusement assez forte encore pour le faire. Et je me suis dit, il faut continuer tout de suite.
Ouais. Et vous avez continué avec des équipes que vous avez mises en place. Et surtout
elles étaient déjà là.
Oui, elles étaient là. Oui. Il suffisait de leur mettre, de continuer.
Voilà.
Et surtout avec une image différente, parce que Bernard était connu pour sa joie de vivre et même ses pitreries. Je me souviens d'un Vivement Dimanche avec Michel Drucker, où Michel Drucker lui avait fait goûter du chocolat aux algues.
Oui, 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 entre autres.
Mais en même temps, vous, c'était différent. Il fallait remettre cette maison en marche avec le financement, avec les moyens, avec les banques. C'était pas toujours facile.
On n'a jamais eu de problème avec les banques, nous. Hein. Jamais. On a toujours eu une bonne trésorerie. Ça a toujours été une maison parfaitement bien gérée. D'ailleurs, nous sommes cotés en bourse.
Oui. Hein. C'est Bernard qui l'a voulu.
Oui, oui, oui. C'était parce qu'il avait été sollicité et puis il a joué le jeu. Ça nous a permis de rentrer 40% pour améliorer la maison, pour faire des beaux travaux, pour avoir une beaucoup plus belle maison. Donc ça nous a permis d'évoluer.
Voilà. Et le personnel a suivi. Quelques-uns sont partis, mais la majorité a suivi.
Tout le monde a suivi, parce que ce sont des gens qui sont très fidèles et qui ont acheté des maisons, qui sont installés là, les enfants vont à l'école là. Aucun de mes employés n'avait intérêt à ce que je ferme, quoi. Je veux dire, ils étaient tous bien là, ils étaient attachés à la maison.
Et ce qu'on ne sait pas, est-ce que vous racontez dans ce livre, Dominique Loiseau, c'est qu'il y a un homme, un ami de Bernard et un de vos amis, qui vous a aidé en coulisses à tenir le choc, et oui, qui a été là au quotidien.
Oui, oui, c'est Rémy Robinet Dufaux, qui est le président du groupe NR, c'est un monsieur charmant, qui, un jour, Bernard partait à Paris un soir à 23h, hein, après le service, et... Rémy lui a dit Bernard, hein, tu roules pas si vite, hein, tu prends ton temps, hein, tu fais attention. Et Bernard lui a répondu, de toute façon, s'il m'arrive quelque chose, tu seras là. Bernard est décédé. Le lendemain matin, Rémy Robinet Dufaux était dans mon bureau. L'après-midi, nous avons travaillé sur les assurances, sur tous les problèmes administratifs qui allaient me tomber dessus. J'étais incapable de traiter tous ces problèmes, moi, toute seule. Et j'aurais même pas trouvé dans ma région des gens qualifiés pour cela. Donc Rémy venait. Déjà, il était resté plusieurs jours avec les premières assemblées générales, conseils d'administration que nous avons fait et autres. Et ensuite, il est venu durant plus d'un an, tous les samedis après-midi. On travaillait sur un certain nombre de dossiers.
Et c'est comme ça que vous avez réussi à remonter la maison, parce qu'au départ, bon, les clients ne sont pas revenus tout de suite, Lise.
Quand même, oui, quand même. Alors, on a eu quand même 40% de clients qui étaient là, au départ. Alors, je n'ai jamais su si c'était pour nous soutenir, ou si c'est des clients qui avaient envie de voir comment était cette maison avant qu'elle ne ferme, mais toujours est-il que nous avions des clients.
Alors, vous avez aussi redéveloppé des choses que Bernard avait lancées, notamment les plats sous vide par des grands chefs. Mmh. Ça, Bernard Loiseau, ça aussi, c'était quelque chose qui était nouveau.
Et oui, c'était un des premiers, oui. Mais nous avons continué avec Patrick. Vous voyez, la
société... Patrick était son adjoint.
Son bras droit en cuisine. Et la société Agis, qui avait fait les plats cuisinés avec Bernard, a eu la générosité de continuer ses plats avec Patrick.
Il faut savoir que les plats cuisinés, au départ, c'est Georges Pralut, un cuisinier, oui, qui les a créés au milieu des années 70 pour trois gros. Mmh. Et puis, il a découvert que la nourriture cuite de cette façon gardait son aspect original et ne perdait pas ses propriétés alimentaires. Et aujourd'hui, tout le monde le fait.
Au contraire, oui. Georges, d'ailleurs, je me souviens bien, parce que j'étais journaliste à l'hôtellerie, j'ai écrit sur Georges Pralut, et notamment sur cette technique. Quand vous mettez une pomme dans un sachet enfermé, et que vous mettez un tout petit peu d'épices ou un peu de caramel ou quelque chose comme cela pour la parfumer. Ensuite, vous mettez ça dans un four à température moyenne et cuisson longue. Après, quand vous la sortez, quand vous ouvrez ce sachet, tous les arômes sont concentrés, sont restés dedans. Vous voyez, c'est pas comme dans un four sur une plaque. Et ça, ça a été une révélation. Après, ça a été appliqué à la viande, au poisson, enfin, ça a été... Et seulement après, c'est allé aux États-Unis.
Voilà, et c'était effectivement, les Français ont découvert ça, à l'époque, oui, où personne n'y croyait. Alors, vous parlez d'un livre que vous avez écrit, Bernard en a écrit plusieurs, Bernard Loiseau, mais il n'en a lu qu'un seul, signé par cette comédienne chanteuse.
Elle est jolie, la cicatrice, avec la marque de tes dents, posée sur le haut de ma cuisse, comme à l'arbre on grave un serment.
Annabelle Buffet, femme de Bernard Buffet, qui avait comme amie Juliette Gréco et Françoise Sagan. Elle a écrit des livres, elle chantait, elle a dit « Tant qu'on ne me dit pas que je chante comme Sagan et que j'écris comme Gréco, ça ira. » Et c'est vrai qu'il y a un livre où elle parle de Bernard Loiseau. Il y a un livre qui est sorti et elle l'a dédié à Bernard Loiseau, Annabelle Buffet.
Oui.
Et ça, il l'a lu. Il l'a lu, c'est
oui,
le seul livre,
c'est le seul livre qu'il a lu. C'était pas un très grand livre, mais quand il l'a reçu, le soir, dans le lit, il a commencé à lire à côté de moi, ce qu'il ne faisait jamais. Alors moi, ça m'agaçait un peu, parce qu'on ne se parlait pas, il lisait. Alors je lui dis, écoute Bernard, t'as qu'à le lire à haute voix, parce qu'en plus, c'était pas un livre très grand. Et il l'a lu en une soirée à haute voix.
Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas le temps de lire et
c'était
pas son truc. Et en revanche, les voyages, effectivement, il y en a eu très peu. Et c'est après sa disparition que vous avez créé un festival à l'île Maurice avec ses anciens cuisiniers.
Oui, dans le groupe Constance. Oui, le groupe Constance a eu envie de faire quelque chose pour nous. Et j'ai essayé de trouver quelque chose d'original, pas juste faire une semaine gastronomique. Donc là, il y a moitié de cuisiniers des îles, du Pacifique, en fait,
de des îles lointaines.
Voilà, des îles, voilà. L'océan Indien, pardon, oui. Excusez-moi. Et ensuite, la moitié vient d'Europe, de restaurants 2 étoiles notamment. Et donc, ils forment des binômes, un Européen et un chef des îles, et il y a un concours, et il y a un binôme qui gagne. Et c'est un concours qui est maintenant très connu, et ça, il y a une émulation dans tous les pays, et pour l'île Maurice aussi, ça fait progresser considérablement la cuisine là-bas.
Oui, car le nom de Bernard Loiseau est encore mythique aujourd'hui auprès des grands cuisiniers.
Ah oui, mais bien sûr, même des jeunes, hein, tout le monde le connaît, c'est assez, assez impressionnant.
Ce que vous n'auriez jamais imaginé au départ, Dominique Loiseau.
Non. Mais je fais un peu tout pour, quand même.
Oui, effectivement. Alors, il faut dire que la cuisine a changé. Et parmi les inquiétudes de Bernard Loiseau, quand il était parmi nous, c'était la cuisine moléculaire. Ça il n'y croyait pas du tout.
Ah non, mais regardez, ça vous parle, la cuisine ? Est-ce que vous en avez autour de vous, de la cuisine moléculaire ?
Le moins possible.
C'était un soufflet qui a vite retombé. C'était une mode, quoi. Mais c'était bien, parce que vous savez, les Espagnols ont souvent été dans l'art, aussi bien dans la peinture que dans la cuisine, des créateurs. Donc, les Espagnols ont lancé cette cuisine. Mais enfin, c'est quand même resté qu'à Barcelone, hein, malgré tout.
Oui.
Hein. Et, mais en France, on n'a pas besoin de ça. Hein. En France, on a une culture. Quand on voit que le premier restaurant était français, le premier livre de cuisine était français, la première école hôtelière était française. Enfin, je pourrais parler longtemps là-dessus. Je veux dire, on a ça dans le sang, quoi. C'est la culture française, c'est les Français. Et les autres arrivent largement derrière. Parce que même s'ils ont une bonne cuisine, ils ne vont pas voir les fromages. S'ils ont les beaux fromages, ils n'ont pas forcément les bons vins. En France, on a tout.
Et la culture, c'est aussi le jardin. Alors là, il y a les jardins anglais qui ont été avant les nôtres. Et les jardins anglais vous ont inspiré car vous êtes passionné de jardin, Dominique Loiseau.
Oui, oui, je suis... un coach m'a dit, j'ai fait une formation de coaching, il a dit, oh, de toute façon, dans une société, il faisait son petit speech, là, en disant, le président, dans une société, il peut faire ce qu'il veut. Et moi, mon rêve, ça a toujours été de mettre des bottes et de jardiner, de planter ce que je faisais à la maison chez moi. Mais j'avais envie de le faire à l'hôtel parce que je n'ai pas de vrai jardinier et parce que j'ai pas envie d'en faire venir parce que ça coûte cher et puis j'ai envie de faire comme j'aime. Donc là, on m'a dit, ah non, non, mais en tant que présidente, au contraire, vous pouvez jardiner. Au contraire, les clients vont apprécier de vous voir jardiner. Et depuis, je m'occupe du jardin du relais Bernard Loiseau.
Et en même temps, vous avez regardé ce qui se passait en Angleterre, les jardins anglais. Car oui. On ne se rend pas compte, les jardins anglais sont fabuleux.
Oui, oui, je suis allée dans les Cotswolds, dans les Garden Centers, où l'on peut acheter beaucoup de décorations de jardin. Alors qu'en France, il faut aller plutôt chez les brocanteurs. Et puis souvent, ça coûte assez cher, la déco pour les jardins. Et là-bas, ils ont ça aussi, c'est une tradition en Angleterre, tous les villages que vous traversez, les maisons ont des plantations tout autour. Enfin, il y a un travail énorme sur le fleurissement.
Oui, et les peintres s'en sont emparés en Angleterre. Le premier, c'est William Kent, qui est au XVIIIe siècle. Et même Churchill peignait beaucoup de jardins. À Downing Street, il y avait une petite pièce réservée à ses tableaux. Dès qu'il partait en vacances, c'était des jardins qu'il peignait.
Ah, je ne savais pas, ouais. Voyez-vous.
Alors maintenant, bon, ben, l'avenir, c'est ce livre qui sort. Et puis l'avenir, maintenant, la maison Loiseau continue. Et surtout, la famille Loiseau continue, car vous avez décidé de travailler complètement en famille, Dominique Loiseau.
C'est pas moi qui l'ai décidé. Ce sont mes filles qui ont décidé de me rejoindre. Durant le confinement, je ne sais pas ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont pensé, ce qu'elles ont fabriqué. Toujours est-il qu'après le confinement, elles sont venues me voir en me disant « Maman, on va te rejoindre ».
C'est-à-dire ?
Bérangère, vice-présidente, chargée de la communication, ça elle fait c'est très très bien, ça elle le tient de son père. Et puis Blanche, qui est une chef cuisinière, puisqu'elle a fait l'Institut Paul Bocuse, elle a fait son master de créativité culinaire, elle a travaillé chez les frères Roca, elle a fait vraiment les meilleures maisons dans le monde, elle a passé un an au Japon aussi pour connaître cette cuisine japonaise. Et donc elle est revenue avec mon chef Patrick Bertrand. Maintenant, ils travaillent ensemble.
Et il y a Bastien, le troisième, qui est aussi en train de travailler avec vous.
Voilà.
Et en revanche, il y a une chose, et vous le dites dans ce livre, vous n'avez jamais voulu refaire votre vie. Vous ne l'avez jamais imaginé, Dominique Loiseau.
Non, et puis je ne l'imagine toujours pas. Entre le jardin, mes petits-enfants et tout ce que j'ai à faire au relais, je n'ai pas le temps d'aller chercher un homme déjà.
Oui.
Et après le garder, c'est encore une autre histoire.
En revanche, vous avez pris le temps de faire ce livre, La revanche d'une femme, chez Michel Lafon, que je recommande à celles et ceux qui aiment et suivent votre parcours. Merci Dominique Loiseau, et puis continuez à vous battre ainsi pour la France, pour la cuisine et pour l'image de Bernard Loiseau.
C'est très important. Merci beaucoup Jacques.
Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.